Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, mes chers auditeurs, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont un mouvement international d'hommes et de femmes qui avaient un problème d'alcool. Non professionnels, ils s'autofinancent, ils sont multiraciaux, apolitiques et on les retrouve presque partout. Il n'y a aucune limite d'âge ni de niveau d'éducation requis. Tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Alors, je vous présente notre invité, Félix. C'est un jeune homme, je l'ai rencontré pour la première fois à notre émission de radio dans le dernier mois. C'est comme intéressé à venir faire son partage, puis il a amené de ses amis avec lui. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir enregistrer des amis aussi de Félix. Et puis, c'est super intéressant, nous allons avoir une superbe journée grâce à son initiative et celle de sa copine. Donc, alors, je suis bien heureuse de l'accueillir. Bien hâte d'entendre ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, je lui cède la parole. Alors, à toi, Félix.
Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu l'entendre, mon nom, c'est Félix. Je suis un alcoolique. Ça me fait drôle de venir partager à la radio. Tu sais, on est habitué de partager dans des salles ou des choses comme ça. C'est un peu différent. Ça va être une expérience différente. Je vais commencer par vous parler un peu de comment j'arrive. Tu sais, moi, il y a beaucoup de façons de voir la maladie de l'alcoolisme, la maladie de la dépendance. Il y en a qui disent que c'est génétique. Il y en a qui disent que c'est pas génétique. Il y a plein de façons de le voir. Moi, je viens d'une famille qui est, bon, dysfonctionnelle d'un côté, puis semi-dysfonctionnelle de l'autre. Tu sais, moi, j'ai été élevé avec mon père, qui était un membre des Alcooliques Anonymes depuis plusieurs années quand je suis né. C'est d'ailleurs dans le mouvement qu'il a rencontré ma mère, puis éventuellement ils se sont séparés. Fait que moi, mon enfance, je vivais avec mon père qui avait pas de problème de consommation, évidemment. Il était sobre depuis pas loin de 25 ans, tu sais. Puis j'ai eu une enfance, là. Je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Moi, de 0 à 13 ans, tu sais, ça a été des expériences d'aller camper avec mon père, de vivre dans la nature, bûcher du bois, faire des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment vécu une belle enfance avec lui. Il m'a appris plein de belles choses. Ça a été merveilleux, tu sais. Mais, du plus loin que je me rappelle, moi, Félix, je pouvais pas être juste Félix présentement, actuellement, dans son corps, dans ce moment-là. Fallait tout le temps que j'allais être mieux, mais que je sois plus vieux. Je serais mieux si je m'en allais chez ma mère. Je serais mieux si telle affaire, tu sais. Fait que ça a toujours, ce sentiment-là, il a toujours été présent dans moi. Du plus loin que je me rappelle, ça a toujours été ça. Tu sais, Félix, maintenant ici, c'est pas assez bon, c'est pas ça que je veux. Fait que moi, j'ai l'impression que déjà là, il y avait un certain côté de la maladie qui était ancré dans moi. Tu sais, est-ce que c'est génétique? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'avais ce sentiment-là. Puis éventuellement, quand j'avais 13 ans, ma vie a comme changé bout pour bout parce que mon père est décédé subitement. Il a fait un arrêt cardiaque. À ce moment-là, j'habitais avec lui à Saint-Faustin-Lac-Carré, pour ceux qui connaissent, là, qui est assez pas mal dans le nord. Ben, je m'en allais dire assez tranquille, mais ça dépend avec qui tu te tiens. fait que non, j'ai Ouais, mon père est décédé, puis à ce moment-là, je suis déménagé avec ma mère qui venait de vendre sa maison à Saint-Adolphe-de-la-Ward, puis qui avait emménagé avec ma tante à Prévost dans les Laurentides, à côté de Saint-Jérôme. Pour ceux qui connaissent pas Saint-Jérôme, mais qui connaissent, exemple, Hochelaga, là, je vous dirais que Saint-Jérôme, c'est un peu comme un gros Hochelaga, tu sais. Fait que... Je passe outre certaines affaires qui sont plus ou moins importantes. Moi, mon introduction aux drogues puis à l'alcool s'est faite, j'avais probablement 11 ans à peu près. Dans la famille, du côté de ma mère, c'était un petit peu plus rock'n'roll que côté de mon père. Fait que, bon, à peu près 11 ans, mon cousin m'avait fait fumer un joint, puis bla 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 bla. Puis ça a été ça. Ma mère, elle avait recommencé à boire, mais ma mère a jamais eu de problème autre que l'alcool. Ouais, fait que quand je suis déménagé chez ma mère à 13 ans, je suis passé de Saint-Faustin-Lac-Carré à aller à l'école à Saint-Jovite, puis je me suis retrouvé à Prévost, j'ai allé à l'école à Saint-Jérôme, puis moi j'étais un jeune garçon rebelle, je vous ai skippé aussi la partie où est-ce que je suis allé en centre d'accueil parce que justement, comme je vous expliquais tantôt, je me sentais pas bien en étant Félix où il était dans le moment présent. Fallait tout le temps que je sois ailleurs. Fait que j'ai commencé à fuguer très très jeune. À 10-11 ans, je partais de chez mon père, je faisais du pouce pour aller chez ma mère parce que j'avais l'impression que je serais mieux rendu chez ma mère. Puis évidemment, j'étais pas mieux rendu chez ma mère, tu sais. Fait que c'était ça, tu sais. Puis éventuellement, bon, la DPJ s'en est mêlée, puis je me suis retrouvé à aller faire un petit tour en centre d'accueil à Huberdeau. Fait que je suis arrivé à Saint-Jérôme après le décès de mon père à 13 ans, petit gars qui a fait du centre d'accueil, qui vient de perdre son père, puis que avant ça, à Saint-Jovite, j'étais un peu... J'étais pas nécessairement rejeté à l'école, mais mettons que j'étais pas très populaire, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, ben... ça a donné que la fille populaire de l'école, elle m'a comme pris sous son aile. Fait que là, je me suis ramassé avec plein de chums. Puis, premier cours, j'arrive dans mon cours de mathématiques. Je spot le gars qui a de l'air le plus tannant en classe. Je vais m'asseoir à côté de lui. Puis là, il me regarde, puis il dit « Hey, tu fumes-tu ça du H, toi? » Puis je dis « Maisant que je fume ça du H, man. » Fait que ma vie a pris un tournant à ce moment-là. Ça a commencé avec la consommation d'autres choses que de l'alcool, mais ouais, j'ai découvert l'alcool pas très longtemps après. Je vous dirais 14-15 ans, j'avais déjà un bon poil facial, j'avais un bon pinch, puis etc. Fait que j'étais capable d'aller acheter de l'alcool, puis avec mes amis, moi, ça a commencé première expérience avec l'alcool. Je suis allé acheter dans ce temps-là, c'était de la vodka ice. Ça goûtait tellement sucré. Mais j'avais acheté deux grosses bouteilles de vodka ice, puis je les avais bu les deux. J'ai été malade. Puis après avoir été malade, j'ai continué à boire. Puis ça a été comme ça. Moi, je vous dirais qu'à partir de ma première gorgée d'alcool, j'étais un alcoolique. Il y en a que ça a été progressif, il y en a que, ben, moi aussi ça a progressé, vous allez le voir plus tard, là. Mais je vous dirais que tout de suite à ma première gorgée, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis je me suis mis à m'identifier énormément à l'alcool, puis à la quantité que je pouvais boire, puis etc. Tu sais, mes amis me donnaient une tape dans le dos parce que hey, Félix, il teinte, lui, hein, c'est un solide, tu sais. Fait que ça a été ça, à 14-15 ans, c'était pas Oui, je m'en allais dire, c'était pas problématique, mais ça l'était. Ça l'était parce que je manquais l'école pour aller consommer. C'est ça, je vous passe ça de toutes les autres substances, mais je manquais l'école pour aller consommer. Après ça, le soir, on faisait des parties. Le lendemain, je me levais pas pour aller à l'école parce que j'étais magané, des affaires comme ça. Puis ma mère, personne tellement merveilleuse que j'adore aujourd'hui puis que j'ai toujours aimé de tout mon cœur, mais à ce moment-là, elle allait pas très bien mentalement. Elle était probablement une dépression ou quelque chose, mais elle avait pas à ce moment-là les outils pour s'occuper d'un jeune adolescent qui est en pleine crise puis que c'est l'enfer. Fait que elle me laissait un peu à moi-même, tu sais. Fait que à force de continuer comme ça, d'être laissé à moi-même, j'ai fait beaucoup beaucoup, je couchais jamais chez nous, j'étais tout le temps dans des parties, tout le temps parti d'un bar puis de l'autre.
Oui, la table est mise, hein, Félix? Tu nous as bien mis les morceaux en place pour comprendre la situation déjà de ton enfance, puis qui était très belle, finalement. Deux parents sobres, quand même, tu sais. L'alcool est sournoise. L'alcoolisme, c'est une maladie qui est sournoise. On sait jamais quand est-ce, sur qui, ni quand elle va frapper. Puis, malgré les meilleures situations du monde ou les plus mauvaises, c'est ça. Tu sais, lui, il avait quand même, Félix, que j'entends, là, c'est que son père était quand même très bienveillant. Puis, mais la mort de ton père, Félix, ça a dû quand même être marquant, là, j'avoue, là, perdre une personne aussi importante à l'adolescence. Donc, on commence déjà la consommation. C'est super intéressant. Merci d'être là. Puis, on s'en va à la pause pour te retrouver tout de suite après.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui vient du Langage du cœur, un très beau livre publié par le groupe des Alcooliques Anonymes. Alors, ça, là, c'est la page 283 que j'ai choisie. Et puis, ça parle de l'acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation? L'une des façons de saisir la signification du principe de l'acceptation, c'est de le placer dans le contexte de la prière des AA, si souvent répétée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Essentiellement, nous demandons la grâce qui nous permettra de croître spirituellement, peu importe les circonstances. Cette prière met l'accent sur la nécessité d'une sagesse qui sait distinguer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous verrons aussi, en tentant de mettre en pratique cet important principe, que le formidable éventail de souffrances et de problèmes de la vie demande souvent bien des degrés d'acceptation. Tantôt, il faut trouver la bonne forme d'acceptation pour chaque jour. Tantôt, il nous faut accepter ce qui pourrait arriver demain. Tantôt encore, nous devons accepter une situation qui pourrait bien ne jamais changer. Et puis, il faut souvent une acceptation juste et réaliste de nos défauts les plus graves et de ceux des gens qui nous entourent. Des défauts qu'il faudra peut-être mettre des années à corriger. Nous connaîtrons tous des échecs, certains réparables, d'autres pas. Nous connaîtrons souvent la défaite, parfois accidentellement, parfois par notre propre faute, parfois encore à cause de l'injustice et de la violence d'autres personnes. La plupart d'entre nous auront leur part de succès matériel, ce qui posera le problème très difficile d'une bonne forme d'acceptation. Enfin, il y aura la maladie et la mort. Comment accepter tout cela? Voilà, si vous voulez continuer, c'est très intéressant là, comme chapitre, c'est le langage du cœur. Ouais, alors, dans l'acceptation, justement, il nous expliquait aussi notre ami Félix aujourd'hui, que lui, il était souvent insatisfait. C'était difficile pour lui de se sentir bien où il était. Il pensait toujours que c'était mieux ailleurs, que ça serait mieux s'il était ailleurs, s'il était avec sa mère, s'il était là, s'il était là. Alors, il déplaçait ça comme ça. Et puis, il était rendu à nous parler beaucoup de son début de consommation et aussi sa, sa popularité à l'école grâce à ça aussi. Alors, je vais le laisser continuer à parler de cette expérience de vie, là, ou ce qui est rendu. Vas-y, Félix.
Merci. Ouais, fait que comme je disais, bon, j'étais à l'école à Saint-Jérôme, puis j'étais devenu quelqu'un d'assez cool dans mon école parce que, comme je vous disais tantôt, je consommais beaucoup, puis les gens me donnaient une bonne tape dans le dos à cause de ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à ce moment-là à traîner avec du monde un petit peu moins recommandable. J'ai commencé à faire un peu des niaiseries. Puis à ce moment-là, là, je vous parle encore, là, j'avais 15 ans à l'époque. Là. C'est ça. Il y avait toujours le décès de mon père, le deuil de mon père, que ça se faisait pas, tu sais, ça se faisait pas parce que je pense qu'à partir de son décès, j'ai comme, tu sais, l'alcoolisme, c'est une maladie des émotions aussi, hein. Puis ces émotions-là, j'étais pas capable de les vivre, j'étais pas équipé pour les vivre, fait que je les ai gelées de beaucoup beaucoup de manières. Avec autant avec les substances, l'alcool, autant avec à ce moment-là, tu sais, moi je fais partie de la génération jeux vidéo. Fait que autant avec les jeux vidéo, n'importe quoi qui pouvait m'empêcher de vivre les émotions que j'avais à vivre. Fait quoi, ouais, à 15 ans, j'étais encore en train de geler le deuil de mon père, tu sais. comme j'imagine plusieurs autres alcooliques l'ont fait avant moi, tu sais. Puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Puis quand j'ai eu mon permis de conduire, là, oh boy, les affaires ont viré bout pour bout. Moi, ça a pas été très long. J'étais quelqu'un qui, malgré ma consommation, malgré mon absentéisme, j'avais des quand même très bonnes notes à l'école. Puis à 16 ans, j'ai commencé mon secondaire 5, puis j'étais rendu juste un peu avant le temps des fêtes, puis je m'étais engueulé avec ma prof d'anglais parce que dans ce temps-là, c'était des cellulaires qui flippaient, là, mais j'avais mon cellulaire dans la classe, puis je textais avec une fille. Puis la prof d'anglais avait confisqué mon cellulaire, puis je l'avais envoyé promener assez solidement en anglais parce que j'étais parfaitement bilingue, fait que mon cours d'anglais, je m'en foutais un peu. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a interdit de retourner dans ses classes jusqu'à ce que je lui écrive une lettre d'excuse. Je peux-tu vous dire que moi, j'étais un peu arrogant? Légèrement. Fait que cette lettre d'excuse là, je suis arrivé au bureau du directeur qui m'a annoncé ça. Puis quand j'ai dit au directeur, écoute, j'écrirai pas une lettre d'excuse, j'ai dit de toute façon en anglais, faites-moi passer l'examen du ministère immédiatement, puis je vais le passer. Puis il dit, je peux pas faire ça, faut que t'ailles un taux de présence dans ton cours pour pouvoir accéder aux examens du ministère. Fait que j'ai dit, ah ouais, ben garde, laisse faire, je l'aurai pas mon secondaire 5. Puis j'ai lâché l'école à ce moment-là. Comme je vous dis, là, j'avais une moyenne générale d'à peu près 85%, puis vraiment par pure arrogance, puis par pur ego, j'ai complètement sacré ça là, puis non, moi, ça se termine là. Puis j'ai décidé que à ce moment-là, bon, moi j'aimais beaucoup, je venais d'avoir mon permis de conduire, mais j'aimais beaucoup modifier des autos puis rouler assez vite. Fait que j'ai dit, moi je vais aller faire un DEP en mécanique automobile. Puis je suis parti. Ouais. Là, j'avais mon permis de conduire. J'avais des amis qui faisaient des parties chez eux assez rock'n'roll. Puis, je me suis retrouvé à, en plus d'avoir la tape dans le dos parce que je consommais beaucoup, je me suis mis à avoir la tape dans le dos parce que je conduisais bien quand je consommais beaucoup. Fait que, ouais, ça a commencé, je vous dirais que la débandade a commencé là. Ça a commencé là, moi je calais des 26-11 de tequila, c'était quoi, la tequila cheap, là, tequila bang bang. Puis le monde trouvait ça tellement hot, là. C'était comme incroyable que je pouvais caler un 26-11, puis après ça je prenais mon char puis j'allais reporter mes chums, tu sais. Fait que c'était dangereux, c'était épais, mais ça me donnait la tape dans le dos, puis ça me donnait une fierté. Puis à travers tout ça, j'ai fait les démarches pour commencer mon DEP en mécanique auto. Moi, je pensais que j'allais faire mon DEP puis que j'allais travailler sur des autos à 300-400 000, puis que j'allais modifier les autos, puis etc. Puis là, je me suis rendu compte que, ben, OK, non, je fais des changements d'huile dans la boîte puis dans le slotch, puis que c'est pas si glamour que ça, tu sais. Fait que j'ai lâché mon DEP, puis là, je faisais plus rien. J'ai rencontré une fille, j'ai déménagé en appartement, tu sais, mais... Ma relation avec ma mère, c'était très difficile. C'était très, très, très difficile parce que, ben, comme je vous dis, je consommais énormément déjà à ce moment-là, à 16 ans. Puis, moi, quand je consommais, j'étais pas le fun, là. J'étais vraiment, vraiment pas le fun. Puis, ma mère, elle s'était fait un chum qui était, il était quand même pas mal rock'n'roll, tu sais, mais j'étais plus rock'n'roll que lui. Fait que il y a eu de nombreuses grosses chicanes entre moi pis lui, puis je m'en allais dire la dernière, c'est pas la dernière, mais celle qui a fait que j'ai déménagé en appartement, c'est que je me rappelle même pas la raison pourquoi qu'on s'est engueulé. Je pense que c'est parce que je suis arrivé à la maison à 2h30 du matin, sous raide, avec 3-4 de mes chums, puis je m'en venais continuer le party, puis vider la bière qu'eux autres y avaient dans le frigidaire. Fait que lui s'est réveillé, puis évidemment, il était pas content. Quelle surprise. Puis moi, j'habite là, j'ai le droit de faire ce que je veux, tu sais. Fait que j'ai commencé à m'engueuler assez solide avec, puis j'ai fait des gestes, j'avais baissé mes culottes dans sa face, puis j'y avais dit « suce-moi, man ». Puis lui, il a vraiment, vraiment pas apprécié, puis je le comprends. Puis, il est descendu dans le sous-sol, il est allé chercher sa carabine, puis il a essayé de me tirer dessus. Mais... Heureusement pour moi, il était probablement aussi saoul que moi. Puis il a manqué sa shot. Puis ma mère, la police est venue, etc., etc., parce que à Prévost, des coups de feu, ça arrive pas trop souvent. Fait que une fois que la police est partie, Ma mère est venue me voir, puis elle m'a dit que c'était assez, puis que fallait que ça se finisse là. Fait que moi, j'ai décidé de déménager en appartement à ce moment-là, à 16 ans.
Mmh. Ben oui. Merci beaucoup, parce que je trouve que tu as une grande honnêteté dans ce que tu dis. C'est pas un moment sûrement glorieux, toi qui cherches la gloire. Puis t'es capable de nous le raconter de façon authentique. Puis c'est de même qu'on réussit à s'identifier, hein, les alcooliques, par des histoires de fous. Parce qu'on en a pas mal toutes vécues, des histoires pas d'allure. Puis comme je trouve que ton mot, la débandade, a commencé, je trouve que tu l'as décrit bien. C'est toute qu'une débandade. Ben merci pour nous raconter ça de façon si honnête. Puis on va aller entendre une pause, puis j'ai hâte de retrouver notre ami Félix.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, _émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureuse, bien sûr, de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. Nous allons retrouver Félix dans la débandade complète, rendu à l'âge de 16 ans. Non, mais c'est comme une histoire assez grave là, qui vient de se passer, qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Puis, il s'en va en appartement. Je pense que c'est mieux comme ça quand même. C'est pas facile à 16 ans, là, partir en appartement, c'est quand même jeune. Il nous a expliqué aussi beaucoup de défauts de caractère d'un alcoolique, hein, si vous avez bien entendu, l'ego, l'orgueil, d'être arrogant, tu sais, la consommation amène beaucoup ça aussi. Alors, je vais le laisser continuer à nous expliquer, lui, le parcours encore de sa vie. Allez, vas-y, Félix.
Merci beaucoup. Ouais, fait que, comme je vous disais avant la pause, après l'histoire d'armes à feu avec mon beau-père, ma mère m'a fortement suggéré de déménager, ce que j'ai fait. Puis c'est pas je vais vous passer ça bien rapidement là, parce que c'est énormément de la même affaire qui se répète. Moi, dans le fond, mon pattern à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup de dépendance affective mêlée avec de l'alcoolisme puis de la toxicomanie. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je me trouvais une blonde, je déménageais chez eux. Puis elle me trouvait bien le fun au début parce que c'était le party tout le temps avec moi. Puis à un moment donné, elle s'écœurait parce que c'était le party tout le temps avec moi, tu sais. fait que ça a été pas mal, là. Ça a été la même histoire tout le temps qui se répète. Puis ouais, 2 ans plus tard, 2 ans puis à peu près 10 appartements plus tard, je finis par, je travaillais dans une petite shop, une shop de ski alpin à ce moment-là, puis ça a donné que le gérant de la boutique, c'était un membre des Alcooliques Anonymes, puis lui, il me voyait arriver le matin, là, puis je sentais le fond de tonne, puis la robine, puis j'étais magané, tu sais, puis à un moment donné, il me dit « Ça te tenterait pas, toi, d'aller faire un meeting? » Puis je dis « Écoute, je peux bien venir faire un meeting, mais je dis, tu sais, je veux dire, je bois parce que j'ai du fun, là, fait que je sais pas, tu sais, puis bon, il m'a amené faire un meeting, mais j'étais clairement mûr, puis dû pour arrêter. Bon, le premier meeting, ça a pas été un succès. J'ai pas vécu, il y en a beaucoup qui vivent comme une magie en arrivant dans une salle de meeting, ils découvrent comme quelque chose, mais moi, étant donné que mon père, c'était un membre, que ma mère, c'était une membre qui a éventuellement rechuté. On dirait que c'était pas, il y avait rien de nouveau pour moi là-dedans. C'était comme du terrain connu, puis ça m'a pas, tu sais ça, c'est pas venu me chercher autre mesure, tu sais. Puis, j'ai continué comme ça. Puis, à un moment donné, après un an ou deux à ce qu'il me parle d'aller faire des meetings, une journée, j'étais assez magané que j'ai dit « Ouais, c'est assez, là. » Puis j'ai pris un jeton du nouveau. Puis ça a été mon premier jeton du nouveau. J'étais arrivé dans les salles, j'avais 19 ans, j'étais magané, là, parce que, tu sais, dans le gros livre des alcooliques anonymes, il en parle aussi que l'alcoolique, souvent, il va se mettre à mêler son alcool avec des sédatifs puissants, puis moi, c'était mon cas. Je mêlais mon alcool avec des benzos, avec des antidouleurs, avec plein d'affaires, puis... Ça m'a vraiment magané rapidement, tu sais. La pharmacodépendance, c'est aussi quelque chose de très difficile, tu sais. Pour moi, ça fait partie de, pour moi, ça vient ensemble, la maladie de l'alcoolisme, de la dépendance, de la pharmacodépendance, de la toxicomanie, peu importe, tu sais. Fait que, j'ai pris un jeton du nouveau, mais moi, je voulais m'asseoir dans une salle puis avoir qu'est-ce que les membres y avaient, mais je voulais pas nécessairement faire qu'est-ce que les membres faisaient, tu sais. Fait que ça a été très long. J'ai été ben des années à prendre des jetons du nouveau puis à pas être capable de faire plus que 2 semaines à peu près abstinent. Puis là, après ça, ben là, j'ai recommencé à prendre... la plupart du temps, j'ai recommencé à prendre des benzos, des activants. Puis ça me redéclenchait, puis je repartais sur la brosse. C'était pas même bien long, tu sais. Fait que, ouais, je vais vous parler d'une rechute en particulier que je trouve vraiment, vraiment importante. Vraiment importante d'en parler parce que ça m'a donné une expérience qu'aujourd'hui, dans les meetings, j'en parle dans mes partages parce que il y a beaucoup de gens qui essayent cette recette-là. Puis pour moi, ça a vraiment, vraiment pas fonctionné. C'est la bière sans alcool. J'ai essayé. Ça faisait à peu près un mois que j'étais abstinent, puis à un moment donné, j'étais encore jeune, là, je suis encore jeune, mais à ce moment-là, j'avais 21 ans à peu près, puis je voulais aller dans un party, puis ça me tentait pas d'avoir l'air du gars plate, tu sais, fait que je disais, ah, je vais m'acheter un 6-pack de Beck sans alcool, puis je vais boire mon petit 6-pack, puis je vais être correct, tu sais, il n'y a pas d'alcool, mon problème, c'est l'alcool, fait que ça va aller. Fait que j'ai bu mon 6-pack en dedans d'à peu près 1 heure, puis après ça, je suis retourné au dépanneur, j'en ai acheté un deuxième, ça a toffé à peu près 2 semaines. À toutes les soirs, en finissant de travailler, j'arrêtais au dep, j'achetais un 6-pack de sans alcool, je retournais chez nous, je le buvais, je retournais, j'en achetais un deuxième, je le buvais, puis là, ben finalement, 12 bières sans alcool, là... T'as l'estomac plein, tu sais. ça a été ça, puis ça t'a fait, comme je vous disais, à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, à un moment donné, j'étais arrivé au dépanneur, il y avait plus de bec sans alcool, fait que j'ai pris une caisse de bière, puis je suis parti chez nous, puis je suis reparti sur la brosse. Je vire aussi fou sa bière sans alcool que sa bière avec alcool. Fait que mon expérience à moi, si je peux faire une suggestion à qui que ce soit parce que je l'ai vécu, c'est pas utile. C'est pas utile pis ça marche pas dans mon cas à moi. Toutes ces années-là, moi, j'ai continué à surfer sans même vague. Ça a été ça jusqu'à 25 ans. Jusqu'en 2016. En 2016, ma situation s'était rendue que moi, je me réveillais le matin en tremblant puis en vomissant. J'avais une bouteille de whisky sur ma table de chevet. Je prenais une coupe de gorgée de whisky, je me rendormais. Puis après ça, quand que je me levais pour commencer ma journée, j'essayais de me déboucher une bière, j'ai toujours à rappeler. J'essayais de me déboucher une bière pour starter ma journée, puis je tremblais tellement que j'étais pas capable de déboucher ma bière. Puis ça, c'était souffrant, là. Ça a même pas de sens comment c'était souffrant. Puis une fois que je réussissais à ouvrir cette bière-là, je prenais 5-6 gorgées, puis fallait que j'aille vomir, puisque mon corps il était pas capable de le prendre. Puis ça me prenait au moins 1 bière et demie, 2 bières pour être capable d'en garder une dans mon estomac, puis d'arrêter de trembler un peu, puis de commencer ma journée. Fait que, ouais, moi, à 25 ans, en 2016, je suis rendu que pour me réveiller le matin, il faut que je boive de l'alcool parce que sinon, je peux pas fonctionner. Je peux pas vivre sans alcool, je peux pas dormir sans alcool, je peux pas rien faire sans alcool. Bon, à travers ça, je me suis fait arrêter en conduite en état d'ébriété, parce que, comme je vous disais tantôt, moi, je conduisais mieux quand que je consommais, tu sais. Fait que, ouais, ce qui devait arriver, arriva, tu sais. Puis, ouais, la dernière, 16 septembre 2016, ma journée que je suis rentré dans une maison de thérapie, le 15, j'étais démoli, c'était ma 50e peine d'amour de l'année. Hein. Puis je pense que celle-là, c'était comme trop. J'avais pas envie de mourir, mais j'étais tanné de souffrir. Ben, j'avais pas envie de mourir. C'est pas vrai, là, mais j'étais tanné de souffrir principalement. C'était pas vraiment la mort qui m'attirait, c'était l'arrêt de la souffrance. C'est ça que je veux dire par j'avais pas envie de mourir. Fait que cette journée-là, je me suis saoulé le 15 septembre. Puis pendant la nuit du 15 au 16, j'ai ramassé une extension. J'étais retourné chez ma mère parce qu'après chaque peine d'amour, je m'en retournais chez ma mère le temps de me trouver un autre blonde puis un autre appartement par la même occasion. Fait que j'étais retourné chez ma mère, je suis allé dans son garage, j'ai ramassé une extension, puis il y a un arbre dans la cour, puis j'étais allé attacher l'extension après l'arbre, puis moi j'ai décidé que ça se finissait là, puis j'ai essayé de me pendre, puis de toute évidence, puisque je suis là aujourd'hui, merci mon Dieu, ça a pas fonctionné.
Moi, je suis vraiment touchée par ce que tu viens de raconter. Ça me dit à quel point l'alcoolisme est une maladie tellement grave, tu sais, qui nous amène soit à la folie, à la mort, à la prison. C'est comme évident, là, ça nous amène vraiment dans une vie d'illusions parallèles, puis à un moment donné, la souffrance arrive, là. Puis c'est une souffrance tellement, tellement forte. C'est seulement nous, les alcooliques, qu'on sait c'est quoi cette souffrance-là. On se comprend. Aïe, aïe. Alors, ben merci encore. Alors, on va tout de suite passer à la pause, ça va nous reposer un peu, puis on revient tout de suite voir Félix.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour, mes chers auditeurs, on revient à l'émission Un jour à la fois. Ouais, le dernier segment là, du partage de Félix. Mais avant, je vais vous informer. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. C'est sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Et si tu cherches une réunion, alors ben oui, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne, sur Zoom, par téléphone, il y a aussi des réunions tous les jours qui se nomment Au bout du fil. Alors, nous retrouvons notre invité Félix. Félix, ben, tu sais, il est rendu à un moment crucial, mettons, hein? C'est comme... quand on dit on est rendu à la tentative de suicide, là, c'est que la souffrance est immense, incommensurable, puis l'alcool, c'est souvent là qu'elle nous amène. Alors moi, je veux pas parler plus longtemps, je lui laisse tout de suite la parole. Vas-y, Philippe.
Merci beaucoup. Ouais, fait que je vous ai laissé un peu comme une série de TV là sur un gros un gros punch, mais comme je vous dis. Ouais, le dans la nuit du 15 au 16 septembre 2016, moi j'ai essayé de me pendre, comme je vous disais, ça a pas fonctionné, puis je me rappelle de m'être réveillé le lendemain matin en me disant que Chris, je suis même pas capable de me suicider comme du monde, tu sais. Fait que c'était vraiment le bout du désespoir. Mais une phrase que moi dans le gros livre j'ai adoré là, il dit comme il fait noir avant l'aurore. Moi j'étais dans le pic de ma noirceur, tu sais. Puis comme je vous disais tantôt, j'ai fait pendant plusieurs années quand même à travers tout ça, je faisais des meetings puis j'essayais d'arrêter de consommer puis merci mon Dieu, je me suis quand même, j'ai pris des numéros de téléphone puis j'avais des membres à appeler. Fait que ce matin-là, j'ai appelé, en fait j'ai commencé par appeler une maison de thérapie. Quand j'ai appelé, j'ai tombé sur le propriétaire. Puis c'était un gars, c'était parfait pour moi. J'avais besoin d'exactement qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est que j'ai appelé, j'ai expliqué ma situation, j'ai dit, écoute, là, j'ai besoin de rentrer en thérapie, as-tu de la place pour moi? Fait qu'il me dit, oui, j'ai de la place, viens-t'en aujourd'hui. Fait que là, je disais, attends une minute, là, j'ai ma blonde, que peut-être faudrait que j'aille la voir avant de partir en thérapie. Fait qu'il m'a coupé la parole tout de suite, puis il m'a dit, tu rappelleras, mais que tu sois prêt. Clac! Il a raccroché. ça a pris 5 minutes, puis je l'ai rappelé, puis je dis, ok, je m'en viens aujourd'hui. Moi, j'étais rendu là, fallait qu'il se passe de quoi, parce que, comme je vous disais tantôt, je suis même pas capable de me suicider comme faut, là. Ça va pas bien, tu sais. Fait que, j'ai appelé ma mère, j'ai emprunté de l'argent, j'ai acheté ma dernière caisse de bière, je l'ai bu. Puis après ça, j'ai appelé un membre, puis j'ai dit, écoute, faut que je m'en aille en thérapie, tu peux-tu aller me porter? Fait que ce membre-là, il est parti, il est venu me chercher, il est parti de à peu près 45 minutes de chez nous, il est venu me chercher, il est allé me porter 45 minutes plus loin, en chemin, arrêté, moi j'avais plus une scène, j'avais plus rien, il a arrêté, il m'a acheté une couple de paquets de cigarettes, starté ma thérapie, puis je suis arrivé en thérapie. Bon, en arrivant là, comme je vous expliquais tantôt, moi, mon problème d'alcool était assez grave pour que j'aie besoin d'un sevrage médical. Fait que je suis rentré là, comme je vous dis, j'ai acheté une caisse de bière avant, fait que je suis rentré là sous, puis ils m'ont envoyé me coucher. Quand je me suis réveillé, l'intervenante en chef, elle m'a regardé, puis elle a dit « Toi, tu s'en vas à l'hôpital tout de suite. » Fait que je suis parti à l'hôpital, j'ai rencontré un médecin, blablabla, blablabla, ils m'ont renvoyé en thérapie, puis j'ai commencé officiellement ma thérapie. Tu sais, le parcours pour arriver dans le mouvement des alcooliques anonymes, là, il est pas important. Ce qui est important, c'est que t'arrives. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous dis, cette thérapie-là était faite pour moi. Fallait que je sois là à ce moment-là. J'ai eu la chance d'avoir... premièrement, une intervenante qui était merveilleuse, qui était capable de m'écouter, puis qui était capable de me ramener sur terre aussi. Puis deuxièmement, il y avait quelqu'un qui donnait des ateliers là-bas qui était très, très, très impliqué dans le gros livre des alcooliques anonymes. Moi, là, cette maison de thérapie-là, c'est pas... C'est drôle, j'en parlais à pause tantôt, c'est pas la plus propre, c'est pas la plus belle sa planète, mais moi, à ce moment-là, là, j'avais jamais été aussi bien de toute ma vie que là, en dormant sur un matelas en plastique simple, d'un lit superposé avec un coloc de chambre qui ronfle, c'était merveilleux. C'était la plus belle expérience de ma vie, tu sais. Puis à force de lire le gros livre, ben j'ai commencé à développer une spiritualité, ce que j'avais pas avant. J'étais extrêmement anti-religieux. J'ai encore aujourd'hui beaucoup de difficultés avec l'Église catholique, ces choses-là, etc. Mais ça, comme c'est un défaut, c'est un défaut personnel. Mais J'ai découvert une spiritualité, j'ai découvert un dieu, j'ai découvert l'entraide, la 12e étape, j'ai découvert que je pouvais aider du monde qui arrivait en thérapie, parce que moi j'avais presque fini ma thérapie. Écoute, j'étais loin d'être guéri, là, mais j'avais presque fini. Fait que les nouveaux qui arrivaient, ben là, je les prenais sous mon aile un peu, puis etc., etc. Puis j'ai finalement décidé de rester. C'était une thérapie qui durait 90 jours. À tous les jours, j'ai fait mes valises, je voulais m'en aller, mais finalement, je restais, puis c'était tellement merveilleux. Puis finalement, après mon 90 jours, j'ai resté habité pas loin de la thérapie pendant 3 mois encore. J'ai continué à m'impliquer dans la maison de thérapie, j'ai continué à m'impliquer dans les meetings dans cette région-là. Puis après 3 mois, bon, je me suis pris un appartement avec ma conjointe. Puis c'est ça. Puis je vous dirais là, depuis ce moment-là, depuis le 16 septembre 2016, je suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. Je le serai jamais. Tu sais, je suis un être humain. je trouve ça drôle parce que. Souvent dans mes partages, je dis que quand je parle que je suis pas parfait, je dis que j'ai essayé de marcher sur l'eau pis ça a pas marché, tu sais. Mais je trouve ça drôle parce qu'en plus, cette semaine, moi je travaille sur la construction puis je me suis tiré à travers de la main avec un gun à clous. Puis encore là, j'ai réessayé de marcher avec un clou dans la main sur l'eau puis ça a pas plus marché. Fait que j'ai pas encore atteint la perfection. Mais je m'améliore à tous les jours, tu sais, je vis des affaires merveilleuses dans ma relation, je vis une relation saine, une relation affective saine. C'est pas ma conjointe qui a mon bonheur dans ses mains, c'est pas moi qui a son bonheur dans mes mains. On s'occupe chacun de nous, puis à deux, on s'occupe de notre couple, tu sais. Mais il y a Dieu là-dedans. Ça prend, tu sais, je dis Dieu parce que c'est plus simple pour moi, mais ça prend une puissance supérieure là-dedans parce que moi tout seul, je vais être fou, puis je scrappe mes relations, je scrappe. Fait que non, moi ça me prend Dieu, ça me prend les meetings, ça me prend des bons amis. Tu sais, des fois. Moi, j'ai un humour un peu noir, un peu tordu, tu sais. Puis des fois je texte un de mes amis, tu sais, puis je disais me semble qu'il faudrait que t'ailles faire un meeting là, ils ont besoin d'apprendre comment se rétablir, tu sais. on se dit tout le temps des niaiseries de même, mais tu sais, j'ai un noyau d'amis que c'est merveilleux. Puis on peut tous se parler de rétablissement entre nous autres, on peut tous se parler de puissance supérieure, on peut tous se parler de ces affaires-là, puis ça, là, c'est comme, c'est wow, tu sais, on peut se parler des vraies affaires, tu sais, j'ai gardé, je te dirais, de mes anciens amis, là, j'en ai deux qui sont encore là parce que je le sais que ces deux-là, c'est des vrais amis, tu sais. Mais à part de ça, là, c'était comme des partners de brosse, là. On se jase plus bien, tu sais. Je les vois passer sur mon Facebook, puis c'est tout le temps la même histoire. Même affaire qui se répète, tu sais. Puis, ouais, j'ai réussi à reprendre mon permis de conduire à travers ces années-là. Je parlais de ça hier, tu sais. Je suis libéré de ma soif. J'ai plus soif. J'ai plus envie de consommer. J'ai plus envie de boire. J'ai plus envie de prendre des pilules. Je parlais tantôt de la pharmacodépendance, là. J'ai plus envie d'aller là-dedans. Ça, c'est le plus beau des cadeaux, tu sais. Puis, moi, je vous dirais que les promesses, là, les 12 promesses des alcooliques anonymes, là, je les vis à peu près toutes au quotidien, tu sais. L'insécurité financière, là, ça veut pas dire que je vais devenir riche. Ça veut dire que ça me fait plus. Je passe plus des journées affreuses à cause que j'ai pas d'argent. Je sais que ma puissance supérieure est là puis qu'elle va s'occuper de ça, tu sais, puis que ça va bien aller. Puis je suis maintenant un gars travaillant, fiable. Puis je vais finir en vous disant que le conjoint à ma mère, là, qui avait essayé de me tirer dessus, là, ça fait à peu près 2 ans qu'il me dit qu'il m'aime. Puis moi, je dis que je l'aime. Puis on a une belle relation à cette heure. J'ai une belle relation avec ma mère. Puis merci au mouvement. Merci à vous d'être là. Merci à tout le monde. Puis merci beaucoup pour votre écoute.
Merci tellement, Félix. Quel beau miracle, là. C'est beau de voir à quel point les promesses se réalisent quand on fait ce qu'on a à faire dans ce beau mouvement-là, au travers les étapes, au travers la lecture du gros livre, tout cet apprentissage-là que t'as mis de la bonne foi puis de la bonne volonté, puis tu t'y es mis, puis ça donne des résultats. Je tiens à remercier tous les participants, aussi à l'émission, nos auditeurs, l'équipe, Richard à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle semaine, à très bientôt.